Frères et sœurs, c'est une joie pour moi. Philippe Hubinon, le pasteur Philippe Hubinon, nous a déjà présenté, alors je ne le refais pas. C'est maintenant le temps pour nous d'aborder un autre sujet à la suite de ce que le pasteur a présenté tout à l'heure. Et par une question, faut-il préparer le retour de Jésus-Christ ? C'est donc ce point que nous allons voir ensemble. Après les signes qui nous ont été présentés, les signes patents de l'accomplissement des prophéties et du retour sans faute de notre Seigneur. Et pour préfacer mon propos, qui aura en fait une allure de prédication et pas d'étude ou quoi que ce soit, je vous invite à lire deux textes, deux passages dans la parole de Dieu, cette parole qui est notre lampe, qui est notre lumière, qui est notre secours, notre soutien. Pourquoi ? Parce qu'en elle, c'est notre Sauveur même que nous entendons parler. D'abord, premier texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Et le second texte sera dans la deuxième épître de Pierre. D'abord donc, Jean 10. À la fin du verset 13. Le Seigneur dit, il emploie plusieurs images pour parler de lui. Il parle de la porte, il parle du bon berger. Et justement, dans ce verset, à la fin du verset 13, il dit, « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Le second texte donc, dans la deuxième de Pierre, au chapitre 3. De Pierre 3. Et à partir du verset 3. De Pierre 3:3, l'apôtre Paul, Pierre dit, dans le sens des temps que nous vivons, « Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries, qui marcheront sur leur propre convoitise et diront, « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Et puis on passe tout de suite au verset 8. « Il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et sans défaut, dans la paix. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Faut-il préparer le retour du Seigneur Jésus ? La réponse, je dis tout de suite, que j'aimerais apporter pendant cet exposé, est que oui, il nous faut préparer la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Mais peut-être que pour quelques-uns, cette réponse ne s'impose pas et que vous vous demandez, mais pourquoi avons-nous besoin de préparer son retour ? Il viendra quand il voudra. Les signes finiront par bien s'enchaîner l'un l'autre et puis il viendra. Et pour d'autres, la majorité, je pense, la réponse, oui, est évidente. Nous devons préparer son retour. Et dans ce cas, la question qui vient tout de suite à l'esprit est plutôt celle du comment. Comment préparer son retour ? Préparer le retour de Jésus ? Oui, mais pourquoi ? Oui, mais comment ? Ce sont ces deux aspects de la réponse que j'aimerais examiner avant vous maintenant. Mais avant cela, une première partie est assez importante, mérite que l'on s'y attarde. C'est un point qu'on ne peut pas esquiver et qu'il nous faut donc régler. C'est celui, en fait, du retour de Jésus en question même. Quand le Seigneur Jésus reviendra, il a dit qu'il reviendra. Mais on a vite fait de se demander, mais quand reviendra-t-il vraiment ? Les dernières paroles de sa propre bouche dans Apocalypse 22 sont « Voici, je viens bientôt !» Mais on a vite fait de se demander, mais reviendra-t-il vraiment ? Tant ce bientôt qu'il a signalé depuis si longtemps semble tarder. Cela fait 2000 ans. Et dans l'histoire de l'Église, on a vu qu'il y a eu des moments où on a cru de manière beaucoup plus forte que le Seigneur était à la porte, dans les années rondes en général, les années 500, 1000, 1500, 2000 un petit peu. Et ce qui est frappant dans cette lettre de Pierre que nous avons lue, c'est que à peine 30 ans après le départ de notre Seigneur, après 30 ans seulement après sa mort, il y a déjà des railleurs qui se moquent de sa venue. Et ils demandent, mais où est cette fin que vous avez, qu'il a annoncée ? Tout demeure comme depuis le commencement de la création. Reviendra-t-il ? Nous avons beau savoir, comme Pierre le dit dans 2 Pierre 3, 8 que nous avons lu, que devant le Seigneur, un jour est comme, il dit comme, hein, comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, n'empêche, la difficulté reste. Cela est un peu difficile à avaler. Il faut le reconnaître. Cependant, il faut dire que le retour du Seigneur Jésus peut vraiment être proche, voire imminent pour chaque personne, tout en se faisant vraiment attendre depuis si longtemps, dans les faits, dans la réalité. Les spécialistes ont trouvé deux expressions pour signifier cette réalité-là, en parlant de retour objectif et de retour subjectif, ou encore de parousie subjective, de parousie objective. Le retour, ou la parousie donc, du Seigneur, a donc une dimension subjective, et elle a une dimension objective. On parle aussi d'eschatologie personnelle ou individuelle, et puis d'eschatologie générale. Là, je reprends la formulation de Wayne Grudem et ou encore de Louise Berkhoff, deux théologiens systématiques dans leur ouvrage notamment. En fait, la fin de chaque personne renvoie d'une certaine manière à la fin finale, à la fin du monde, où le Seigneur Jésus dit qu'il viendra. Et pour chaque personne, c'est une sorte de retour subjectif quand mort advient avant que le Seigneur n'arrive. Dans ce sens, Hébreux 9, verset 27 nous apprend qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement.
Et dans le même sens, Apocalypse 3, verset 3, nous exhorte à veiller pour que le Seigneur ne vienne pas nous surprendre comme un voleur. À veiller en l'attendant. On pourrait dire que au jour subjectif, au jour S de la mort, chacun est comme transporté au jour objectif, au jour O du Seigneur, en traversant l'état conscient, le sommeil conscient de l'état intermédiaire. Et à la différence du jour S pour le sujet de la mort de chaque personne, il y a donc le jour J, le jour objectif, le jour de la fin objectif du monde qui, ce jour-là, a été fixé par le Père et par le Fils. Et cette venue-là, plusieurs choses, plusieurs signes doivent s'accomplir. Et on a vu quelques éléments marquants. Il y en a d'autres aussi qui doivent s'accomplir. Vous voyez, JS et JO se renvoient un peu comme l'un à l'autre. JS renvoie à JO. Le retour du Seigneur est imminent pour chacun, pour chaque personne, dans la mesure où la mort peut frapper à tout instant. La mort peut frapper de manière imminente en cas d'incident malencontreux dans les minutes, les heures. Qui sait ce qui peut arriver dans cette salle si une bombe ou je sais pas un avion peut s'écraser. Il ne s'agit pas d'être défaitiste, mais c'est réaliste. En tout cas, notre mort surviendra avant nos 90 ou 100 ans de manière générale. Pour chaque personne, le jour est imminent. L'espace des 70 ou 80 ans plus robuste, pour citer le psaume 90, verset 10, ou encore un peu quelques chouïas avec les progrès de la science. En tout cas, cette réalité de préfiguration-là est assez nette dans l'Écriture. En Matthieu 24, par exemple, la fin de Jérusalem, la destruction du temple, qui marque donc la fin du système juif qui est basé sur l'Ancien Testament, elle est donnée comme une préfiguration, comme une anticipation de la fin du monde final dans Matthieu 24. Et dans l'Ancien Testament, on voit que le jour de l'intervention de Dieu contre l'Égypte, par exemple, en Ézéchiel 30, au verset 3 et suivant, ben ce jour-là, il est donné comme un signe qui anticipe, qui préfigure le jour où le Seigneur Jésus interviendra de manière décisive pour mettre fin à l'histoire. Et de la même manière, la parousie subjective, donc, pour chaque personne, est présentée comme préfiguratrice, comme anticipatrice de la parousie finale. Vous voyez, alors que la parousie subjective concerne une entité restreinte, précise, la parousie objective vise plutôt le général, l'universel. Alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec le retour du Seigneur Jésus qu'il faut préparer? C'est d'abord une question d'aiguillage. C'est une question d'aiguillage. Il est important de distinguer l'histoire du monde qui aura une fin, dont la fin est fixée par le Seigneur, de notre fin qui, elle, peut malheureusement être imminente. L'enjeu, voyez-vous, se voit dans la présentation de la fin dont on parle. Je connais une jeune fille qui n'est pas dans cette salle. Son pasteur, le pasteur de son église, a décidé il n'y a pas longtemps de lancer une grande campagne, une série sur le retour de Jésus, ce qui est super. Il nous faut davantage être sensibilisés sur ce thème. C'est pour cela que nous vivons en tant que chrétiens. Mais cette fille, elle est rentrée le dimanche après-midi chez elle et elle est allée retrouver sa maman qui n'était pas au culte parce qu'elle était à l'école du dimanche ce jour-là. Mais vraiment terrorisée, toute défaite. Et elle dit, maman, tu sais quoi, Le pasteur aujourd'hui a parlé du retour de Jésus. C'était effrayant, c'était terrible moment. Et le pasteur nous a dit que Jésus va venir aujourd'hui ou demain. Remarquez que l'effet homilétique de ce genre de prédication est efficace. C'est frappant, ça marche. Mais il y a un risque. Il y a un risque que qu'on reçoive ce genre d'enseignement d'un retour imminent, immédiat, une première fois, une deuxième fois, et qu'à la longue, finalement, on devienne vacciné. Et qu'on ne s'en préoccupe même plus donc. Ce que je veux dire, c'est que il est possible de présenter le retour du Seigneur comme étant tellement imminent, aujourd'hui, demain, il est possible de tétaniser les foules de cette manière-là. Et puis, ces foules terrorisées peuvent se tourner vers le Christ, comme cela fut le cas, notamment à Florence, en Italie, notamment à la fin du XVe siècle, sous les prédictions d'un certain pré-réformateur Savonarole. Et le Seigneur Jésus a utilisé cela. Il a utilisé cela pour appeler plusieurs à sa suite. Certes, le Seigneur peut corriger nos erreurs pour accomplir son plan. Mais, me semble-t-il, cela ne justifie pas notre manque de discernement biblique et théologique qu'il nous faut avoir. Et là, l'accent principal est celui-ci. C'est qu'il nous faut parler comme l'Écriture parle. Au moins, en tout cas, nous habituer à vouloir parler comme l'Écriture parle. Cela implique une discipline dans la compréhension de l'Écriture, mais parler comme l'Écriture parle. Et notamment, le Seigneur n'a jamais, jamais présenté son retour objectif final comme devant être imminent, comme devant être aujourd'hui, demain. Ça le sera bien un jour, bien sûr. Mais au contraire, il a présenté son retour comme étant proche. Il a dit « Je viens bientôt ». Et en plusieurs autres passages, il laisse clairement entendre qu'il se passera un certain temps avant son retour objectif. En revanche, l'Écriture nous, me semble, placer l'accent sur l'éventualité de l'imminence de notre mort, l'imminence de son retour subjectif donc pour nous. Simplement un exemple, dans Luc 13 que le Seigneur Jésus cite, vous voyez, c'est 18 malheureux ou malchanceux, pourrait-on dire, sur qui la tour de Siloé est tombée de manière si subite et qui les a emportés. Cette imminence possible, notre fin en tout cas, doit nous amener à veiller, à nous préparer de manière éthique à rencontrer le Seigneur, et ceci jour après jour. Ici, en fait, voyez-vous, l'Écriture me semble plutôt souligner l'urgence de la sanctification. C'est la sanctification qui est mise en valeur et qui est répétée. Et avant de parler du comment devons-nous préparer le retour du Seigneur, penchons-nous maintenant sur la question du pourquoi. Pourquoi préparer le retour du Seigneur Jésus? C'est un petit peu la suite du point précédent que nous venons de voir. Si nous disons que le Seigneur Jésus est la personne la plus importante de notre vie, qu'il est celui qui donne sens à notre vie, celui pour qui nous vivons, alors il est quelque part logique que nous préparions sa venue. Cela est logique que nos vies soient dirigées, que nos projets soient comme orientés vers ce retour-là, vers ce Seigneur que nous attendons, vers la présence de laquelle nous soupirons. Ce sera ce moment où nous le verrons vraiment tel qu'il est, dans toute sa beauté. voir Jésus dans toute sa beauté. Nous le verrons tel qu'il est et nous lui poserons alors toutes nos questions qui sont maintenant pour l'instant encore restées irrésolues, toutes nos énigmes de la vie qui sont encore un peu embrumées. Pour l'instant, nous avons parfois difficile à tout mettre ensemble de ce que nous savons du Seigneur. Mais ce jour-là, il sera présent à nos yeux. Il sera présent devant nous, à nos yeux même. Et c'est justement peut-être là la première raison qui doit nous pousser à préparer sa venue. Parce que, en fait, voyez-vous, c'est le roi, et pas n'importe quel roi, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui va venir, qui va revenir. C'est lui qui sera présent. La présence du Seigneur, c'est ça le sens même du mot, notamment « parousie » qui est utilisé par le grec et que l'on a simplement francisé en disant en français « parousie », donc « parousie » en grec et « parousie » tout simplement en français. La parousie de Jésus, notre Seigneur, c'est quand il sera présent. Parce que pour l'instant, il est absent. Il est absent de corps. Comme le dit très clairement 2 Corinthiens 5, verset 6. Bien sûr, il est présent par son esprit. Et nous aimons davantage souligner qu'il est présent par son esprit que de souligner aussi qu'il est absent de corps. Mais s'il est absent de corps maintenant, il sera présent de corps en ce jour-là, au milieu de nous. Et c'est donc ça qui doit faire que nous devons nous attendre, nous devons mettre un élan tout spécial dans la préparation de ce jour où nous l'aurons enfin avec nous. On employait en fait ce mot parousie déjà dans le sens d'arriver pour les grands personnages du temps. Par exemple, quand un roi faisait une visite, la région, la ville était en émoi. C'est un petit peu comme au Cameroun, d'où je viens. Lorsque le gouverneur d'une région visitait la contrée en question. Alors, on s'activait, on nettoie partout, on nettoyait les routes, on badigeonne les arbres. Mais tout cela, on se tasse le long de la route principale où on sait qu'il va passer, juste pour le voir. Et quand il arrive, on dit « Ah, ben le voilà ! Le voilà !» Et la foule se presse à sa rencontre. Et c'est ce mot, en fait, que le Nouveau Testament reprend pour nous parler de la venue du Seigneur Jésus. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est ce qu'avaient les premiers chrétiens lorsqu'ils parlaient, lorsqu'ils évoquaient le retour du Seigneur Jésus. Cette rencontre, quand il viendra dans les airs et lorsque l'Église montera à sa suite dans sa rencontre. Et deuxième raison qui doit nous pousser à l'attendre, c'est qu'il va, venir, ça c'est certain, on l'a dit. Il va venir, mais il va venir publiquement et en gloire. Publiquement et en gloire. Sa venue est certaine, aussi certaine que celle de l'aurore. Son œuvre de salut, voyez-vous, cette œuvre de salut a demandé que sa première venue, qu'il vienne un petit peu comme un simple homme, en prenant la condition de serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, dit Philippiens 2, verset 8. Et la croix, c'est cette sentence pour les criminels, pour les criminels. Et pourtant, il était roi. Il était roi. Mais à son retour, il faut que cette vérité-là, de sa grandeur, de sa victoire, soit sue de manière publique, tout comme il a été crucifié publiquement. Il faut que cela se sache. C'est vrai que sa grandeur, sa gloire, de cette manière, a éclaté avec la résurrection. C'est vrai que Romains 1, verset 4, notamment, dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que cela ne s'est fait qu'à un petit groupe. Un petit groupe de disciples choisis auparavant, d'avance. Mais sa révélation définitive, générale, elle reste encore à se faire. En fait, vous voyez, si le Seigneur avait fait éclater sa gloire tout de suite après sa résurrection, ben, ça aurait été la fin. Ça aurait été la fin finale de l'histoire. Les adversaires auraient été tout de suite confondus ayant vu la mascarade par laquelle ils ont livré le Seigneur Jésus. Ils auraient été condamnés tout de suite et de même, et ils n'auront pas eu l'occasion de se convertir. Et de même nous aussi, nous les co-responsables de la mort du Seigneur, nous n'aurions pas eu l'occasion de nous convertir, de nous tourner vers le Seigneur. Pour que nous soyons sauvés, il fallait que le Seigneur Jésus voile d'une certaine manière un petit peu sa gloire, comme il la voile encore jusqu'à présent. Il fallait que l'histoire continue de cette manière-là. Et l'apôtre Pierre nous décrypte clairement les choses. En 2 Pierre 3, verset 9, il dit clairement que c'est pour qu'aucun ne périsse, qu'aucun parmi les élus ne périsse, qu'aucun pour qui Dieu a donné sa vie ne périsse. Dieu use de patience vraiment à cette fin-là et pas pour une autre fin. C'est ça qui fait même la raison d'être de notre monde actuel. C'est pour ça que Dieu tarde encore, comme certains le disent, et c'est vrai qu'il tarde. C'est pour ça qu'il renvoie encore la fin, en attendant que plusieurs puissent être sauvés. Et puis, troisième raison qui devrait nous inciter à préparer son retour, c'est que c'est une raison un peu éthique, c'est le jour où nous serons enfin délivrés. C'est le jour où ce sera la fin de tous nos maux, de notre péché qui s'attache si facilement à nous. Et en vue de cela, bien sûr, il nous faut préparer cette venue, nous inciter aux bonnes œuvres, veiller sur notre conduite, de peur que ce jour ne vienne nous surprendre et que lui-même ne vienne nous surprendre en quelque faute et que nous n'ayons à rougir devant lui. Et il faut aussi remarquer que ce n'est pas seulement nous, chrétiens, qui attendons ce jour-là. Toute la création est comme dirigée, elle attend cette révélation que Dieu apportera. C'est Romains 8, notamment, qui le dit. L'apôtre Paul dit que la création tout entière soupire les douleurs de l'enfantement. Elle attend avec impatience ce jour-là. Donc, se préparer à la rencontre du Seigneur, attitude logique pour le croyant qui aime Jésus, pour celui qui aime son Sauveur. Donc, pourquoi préparer son retour? Trois petits éléments que je viens de relever. D'abord, parce que c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs de l'univers qui va arriver. Et on verra la conséquence de ce premier point. Et ensuite, parce qu'il reviendra publiquement, de manière universelle. Pas seulement pour moi, mais de manière universelle et en gloire. Et enfin, troisièmement, parce que ce sera le jour de la délivrance vraiment finale, le jour où nous serons pour toujours avec lui, sans rien qui voile son visage, sans péché qui nous sépare de lui. Troisième point pour terminer. Comment préparons-nous concrètement ce retour de notre Seigneur? Parce que le jour du Seigneur arrivera de manière inattendue, comme le dit Pierre au verset 10 du chapitre 3 que nous avons lu. Pierre exhorte à cause de cela ses auditeurs à une conduite, à une piété donc sainte, et il déclare au verset 12, de manière un peu surprenante, il dit « Attendez ». Et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Dans ce verset, il y a comme deux verbes qui marquent de manière claire ce qui nous est demandé de faire en l'attendant. Attendre et hâter. attendre athée. Ce qui peut sembler un petit peu contradictoire. Considérons d'abord le premier verbe. Nous sommes d'abord invités à attendre, et ça c'est beaucoup plus facile à comprendre pour nous. C'est beaucoup plus compréhensible parce que c'est Dieu qui est le maître du temps, de l'histoire, comme on l'a souligné encore ce matin, selon acte 1, verset 7, par exemple. C'est lui, c'est Dieu qui a fixé le jour de la fin des temps, et cela de sa propre autorité, dit le Seigneur Jésus dans ce texte. Cependant, il faut dire que il nous est demandé non pas d'attendre passivement, le verbe est à l'actif, mais il nous est demandé d'attendre en menant une vie saine et paisible. C'est un participe présent, donc une action vraiment continue. Et cette exhortation à mener une vie sainte, agréable à Dieu, est formulée, en fait, voyez-vous, par deux types d'adjectifs négatifs. Il est dit « sans tâche et sans défaut » au verset 14. Et ceci par contraste, en fait, avec l'attitude des faux docteurs dont l'apôtre Pierre parlait déjà au chapitre précédent. Ces faux docteurs qui ne sont que défauts et tâches, qui ont les yeux pleins d'adultère et le cœur exercé à la cupidité. Je rends grâce qu'il n'y en a pas dans notre union d'église, dans notre association d'église. Mais en tout cas ici, il y a une nécessité d'une préparation personnelle, éthique, qui est liée même à la dimension subjective de la parousie, du retour du Seigneur. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, alors nul ne sait quand il reviendra, mais s'il revenait aujourd'hui, dans le sens que si je mourais aujourd'hui, si j'allais à lui, si aujourd'hui le Seigneur me redemandait mon âme, comment devrais-je me présenter devant lui? Voilà la question qui doit nous tarauder jour après jour et qui doit nous pousser à cette sanctification qu'il est attendu de toute personne qui a professé, rejeté le péché en acceptant la mort substitutive de Jésus-Christ. Il y a une nécessité à se purifier, à progresser de plus en plus dans la sanctification à laquelle nous devons marcher. Se préparer à sa mort, qui peut être subite, comme on l'a dit. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, disait déjà Amos 4, verset 12 aux Israélites. Et ces paroles gardent pour nous une validité vraiment toute permanente pour aujourd'hui encore. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors certes, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de notre Seigneur qui œuvre en nous ainsi, en nous préparant, en nous prédisposant à ce que nous venons de dire. Cependant, nous avons à travailler au point, voyez-vous, de hâter le jour. Eh oui, nos actions, nos initiatives contribuent effectivement à faire hâter ce jour-là que Dieu a pourtant fixé. Regardons d'un peu plus près ce second verbe. Hâter le jour de Dieu. Comment est-ce possible de hâter la venue de Jésus? Comment est-ce possible? Le commentateur anglo-saxon Edwin Bloom montre que lorsque Pierre parle de hâter la venue de Jésus, il pense certainement à la prière, à l'évangélisation, la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui sont les deux manières principales de hâter ce jour-là. Mais cependant, on ne peut pas s'empêcher de se demander, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible de hâter ce que Dieu a fixé auparavant? C'est vraiment un paradoxe, n'est-ce pas? Comment hâter ce qu'il a fixé? Henri Blocher, théologien évangélique français, explique que si cela est possible avec le grand Dieu, c'est parce que le plan de Dieu est plus vaste. Il est tout englobant, il dit. Le plan de Dieu ne comprend pas seulement le jour que le Seigneur a fixé de sa propre autorité, ce qui est le cas, mais il comprend aussi toutes nos démarches de travail, d'évangélisation, d'efforts personnels, De nuit sans sommeil, en vue de prier pour telle situation, en vue de veiller sur l'Église, etc. Le plan de Dieu tient compte de tout cela. Et notamment, le plan de Dieu tient compte de l'évangélisation par laquelle, par lesquelles, tous ces éléments-là, Dieu fait vraiment venir ce jour-là et vite. Ce n'est pas pour rien que l'accent principal du Nouveau Testament est tourné vers la mission, parce que c'est par l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre que Dieu fait avancer son projet et qu'il porte l'histoire à son terme. Oui, alors, comment hâtons-nous concrètement le jour de Jésus, le jour de notre Seigneur ? D'après Jean 10, et c'est pour ça que je l'ai lu, que nous avons ensemble vu tout à l'heure, le projet de Dieu, c'est de sauver toutes ses brebis. Il parlait des brebis juives qui étaient dans la bergerie, la bergerie d'Israël dont il était question. Et il a dit qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie-là. Elles sont encore disséminées ici et là dans les enclos du monde, pour citer Calvin. Il faut qu'il aille les chercher. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Notre évangélisation, notre annonce, notre proclamation de la bonne nouvelle contribue réellement à faire avancer l'œuvre de Dieu. Soyons-en vraiment certains et encouragés. Et il faut dire que quand nous ne voulons pas évangéliser, en nous trouvant toutes sortes de raisons, je suis comme ça, quand nous ne voulons pas évangéliser, ben c'est le projet de Dieu qui en souffre, qui en pâtit. En revanche, notre évangélisation, quand nous trouvons des raisons suffisantes de croire que ceux qui sont à l'extérieur de Christ sont perdus et qui vont tout droit en enfer, quand nous trouvons assez de raisons pour nous sortir de tout le raisonnement que nous dressons, eh bien, notre action contribue réellement à faire venir le jour du Seigneur. Dieu nous veut co-ouvriers avec lui, pour citer cette belle formule, cette belle expression de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 3, verset 9. Et puis, il faut aussi dire que le couple attendre et hâter nous donne une perspective plus globale de l'œuvre, de la mission, du travail de Dieu. Souvent, nous sommes attachés à nous, à notre frère, à notre sœur, à notre fils, à notre famille, à notre église, que l'on voudrait absolument voir sauver, ce qui est bien, il nous le faut faire. Mais cependant, déjà, reconnaissons qu'il y a un mystère là qui nous échappe. Pourquoi, dans une famille, pourquoi tel et pas tel ? Pourquoi moi et aucun de mes frères et sœurs ? Nous ne pouvons pas, voyez-vous, obliger quiconque à se convertir. Alors, rentrons, me semble-t-il, dans une perspective qui est plus biblique, ce qui nous évitera, je pense, un peu de tourments inutiles parfois, parce que sitôt qu'on dit que le retour du Seigneur Jésus, qu'il faut le préparer, il faut se rendre tout de suite compte qu'il s'agit là du retour du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, du Maître de l'Univers. Et c'est le Maître de l'Univers, il ne peut pas venir que pour moi. Bien sûr qu'il viendra pour moi, et pour vous, et pour ma sœur, et pour mon frère. Mais il a un plan plus vaste, un plan fou même. Même s'il reste une seule brebis qu'il n'a pas encore trouvée, mais il laissera les 99 autres sur la montagne pour aller à la seule recherche de cette brebis, qui peut-être a les pieds cassés, je ne sais pas, qui peut-être est presque au point d'agoniser, mais qui est encore vivante. C'est une folie du berger, ou une sagesse pour apprécier les choses à leur juste valeur. En tout cas, il est bon, d'aimer ma famille charnelle, d'aimer mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille, de souhaiter sa conversion, de tout faire dans ce sens-là. Mais il est encore beaucoup plus harmonieux, il est encore meilleur d'aimer la famille de Dieu. Il est encore meilleur d'aimer les enfants de Dieu, d'aimer l'Église de Dieu, d'aimer le plan de Dieu, de rentrer dans le plan de Dieu, dans le sens de voir sauver ceux qui doivent être sauvés, de travailler avec Dieu dans ce sens-là. Parce que nous sommes couvrés avec Dieu. Il est logique que nous travaillons en suivant son plan, et non pas, bien sûr, le nôtre ou nos propres envies. Notamment, certes, il nous faut travailler dans notre propre voisinage, dans notre propre famille, dans notre propre église, afin que la gloire du Seigneur se manifeste davantage, mais il faut aussi garder cet œil attentif à l'œuvre de Dieu qui se poursuit, notamment partout dans le monde. On parlait de mondialisation ce matin. Et la soutenir. Ces régions où Dieu semble être grandement à l'œuvre actuellement. La Chine, par exemple, actuellement. Des pays de l'Est, avec la chute du mur, où on voit comme une masse de personnes se tourner vers le Seigneur. L'Afrique, l'Amérique latine, toutes ces régions où Dieu semble de manière manifeste travailler puissamment. Et pourquoi devons-nous faire tout cela ? Parce que c'est de cette manière-là que Dieu se constitue sa bergerie dans ces régions du monde là aussi. Sans oublier, bien sûr, là où nous sommes, notre voisinage. Et concrètement, que devons-nous faire ? Juste trois éléments. Si nous sommes conviés avec Dieu, donc, alors faisons de manière générale des projets dans le sens de l'évangile, de l'avancée de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le projet de Dieu. Priez pour cela, par exemple. Ou pourquoi pas s'engager dans ce sens-là. À ce sujet, je remarque souvent qu'il est parfois désolant de voir certains chrétiens vivre comme s'ils n'attendaient pas le Seigneur. Et j'espère que ce n'est pas votre cas. Certes, la vie est dure et assez souvent, on est pris dans le train-train quotidien de la vie, avec métro, boulot, dodo. Mais au-delà de cette difficulté même, n'est-ce pas sa présence, la présence du Seigneur qu'il nous faut rechercher? N'est-ce pas ça qui fait le moteur de notre vie? Et dans le sens du soutien de l'œuvre de Dieu autour de nous, il faut dire qu'il manque tellement cruellement de serviteurs. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre de pasteurs qui se sont levés tout à l'heure. Et pour combien d'églises? Il manque tellement de serviteurs de Dieu dans notre pays où nous sommes. Et l'œuvre de Dieu est souvent bien à mal. Et là, j'aimerais simplement lancer peut-être un appel à nous, et peut-être à nos familles, à nos enfants, et notamment en m'adressant aux parents. Pourquoi ne pas encourager nos jeunes fils, nos jeunes filles à réfléchir dans un engagement à l'œuvre du Seigneur, au lieu de rechercher telle carrière prestigieuse? Pourquoi ne pas les encourager plutôt à se former pour servir le Seigneur à plein temps, si possible? Pourquoi ne pas davantage engager nos finances pour l'œuvre de Dieu, afin que ceux qui se lèvent ou aimeraient se lever ne soient pas limités, arrêtés par ce facteur financier? Certes, à Dieu appartient l'argent et l'or. Oui, mais il nous l'a aussi donné, pour que nous puissions servir son œuvre dans ce sens-là. Et puis aussi, pourquoi ne pas s'engager tout simplement à prier régulièrement pour mon pasteur, pour les anciens, pour tel ou tel serviteur de Dieu qui est dans le besoin? Et pourquoi ne pas s'engager tout simplement soi-même au service du Maître? Parce que voyez-vous, c'est de cette manière, et c'est le troisième point, c'est de cette manière que nous hâtons son retour, en dirigeant nos projets vers son œuvre, en soupirant après sa présence, qui nous fait si chaud au cœur. C'est en dirigeant nos yeux vers le ciel, de sorte que nos projets en soient affectés et qu'ils puissent bientôt revenir, que nous sommes engagés, exhortés. Que le Seigneur nous soutienne vraiment dans cet élan-là. Et ceci pour sa gloire, prochaine, future, peut-être imminente, qui arrive. Amen.